15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Ici, dans ce studio, on répond à vos questions sur les petits et les gros bobos qui vous préoccupent et on essaye bien sûr de vous faire du bien. Il est à mes côtés tous les jours pour vous répondre, vous éclairer, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer et pour en parler, dans notre grand dossier, nous recevrons le président de la Ligue contre le cancer, le professeur Axel Kahn. Avec lui, nous allons parler de prévention des cancers, évidemment. Et car 40% d'entre eux sont évitables. On fera le point avec lui et puis on vous donnera aussi de bonnes nouvelles du côté des cancers pédiatriques grâce au progrès de la médecine. Aujourd'hui, 4 enfants ou adolescents sur 5 guérissent de leur cancer et des traitements prometteurs, on en parlera, permettent d'espérer que bientôt ce sera beaucoup plus. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il nous alerte sur les bactéries que l'on trouve sur notre literie. On n'y pense pas, mais attention, vos oreillers, draps et couettes peuvent être de vrais bouillons de culture. Ensuite, dans notre chronique les mots du quotidien, on va parler du pneumothorax. C'est lorsque l'air se trouve dans la cavité pleurale, c'est-à-dire entre les poumons et la cage thoracique. On va vous expliquer comment ça se manifeste et surtout comment ça se soigne. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. On vous dira tout sur la sapiosexualité.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Sonia.
Oui, bonjour docteur Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie. Je vous appelle parce que je pense que je suis allergique, mais que je ne me suis jamais fait tester. J'ai souvent le nez qui coule, les yeux qui piquent et mon généraliste me conseille de faire un bilan allergologique. Donc j'aimerais savoir comment ça se déroule, si c'est long, si ça fait mal. Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Alors effectivement, quand on a donc une suspicion d'allergie ou un terrain allergique, vous les généralistes, Jimmy, vous nous prescrivez parfois un bilan allergo. Alors ça consiste en quoi ce bilan ?
Dans la plupart des cas, on fait des tests cutanés, on appelle ça des prick tests. Ces tests consistent à tester la réaction de la peau au contact d'une toute petite quantité d'allergènes. Pour ça, on en teste plusieurs, les acariens, les pollens, que ce soit de graminées, d'herbacées ou d'arbres, les fanères, c'est-à-dire les poils d'animaux, chiens, chats ou éventuellement cheval, les moisissures ou d'autres allergènes, notamment lorsque vous faites une allergie à un antibiotique. Et c'est souvent orienté par l'interrogatoire et l'examen clinique. Et chez l'enfant de moins de 3 ans, on teste en plus l'arachide, le blanc d'œuf, le poisson et le lait de vache.
Alors comment ça se passe précisément ce test cutané, donc sur la peau j'imagine ?
Oui, sur la peau, on a plusieurs zones. Soit on fait ça sur le bras, au niveau de l'avant-bras, soit au niveau du dos. On teste sur une peau saine à l'aide d'une petite lance où on va déposer plusieurs allergènes les uns à côté des autres.
Petites gouttes, hein, c'est
exactement,
ça ?
De petites gouttes espacées de 2-3 cm. On pique légèrement la peau pour que l'allergène passe au travers de l'épiderme. Et puis on voit ce qui se passe, on compare cette petite incision qu'on fait avec un témoin qu'on appelle pour voir s'il y a une différence entre l'allergène qu'on a inséré dans l'épiderme et le témoin qui doit être négatif.
D'accord, et si c'est positif, il se passe quoi sur le
bras ? En cas d'allergie, il y a une induration, ça gonfle, il y a une réaction inflammatoire qui se crée, une réaction immunologique. On fait la lecture à 15 minutes et on peut comparer l'allergène avec le témoin. S'il y a une induration de plus de 3 mm, mais ça c'est le problème du médecin, on considère que l'allergie est donc positive et révélée.
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avant de faire ce genre de test ?
Souvent, on vous demande d'arrêter vos antihistaminiques, les anti-allergiques, dans les semaines qui précèdent, souvent une semaine suffit pour éviter de fausser les résultats. Si vous prenez des bêta-bloquants, c'est vrai chez les adultes, on conseille sur avis cardiologique et du médecin traitant de les arrêter, car si vous faites une réaction allergique grave, l'adrénaline marche moins bien en cas de prise de bêta-bloquants. Ces tests sont déconseillés si vous avez une maladie de la peau évolutive comme un eczéma sévère. Et enfin, il est déconseillé chez la femme enceinte, car il n'y a aucune urgence à se faire tester pour l'allergie.
On fera ça après la naissance. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Et donc, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Nathalie. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'avais une petite question. On entend souvent pendant les canicules qu'il faut faire attention à certains médicaments qui peuvent aggraver l'état de certains patients. Est-ce qu'il y a le même genre de problème en hiver avec les périodes de grand froid ? Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
C'est une bonne question, Jimmy. C'est vrai que même nous, les journalistes, on fait souvent des reportages pendant les périodes de canicule pour dire aux patients qui ont des maladies chroniques, qui prennent des traitements, attention avec certains, notamment contre l'hypertension, ça peut provoquer des déshydratations. Faites attention, voyez avec votre médecin s'il faut revoir le dosage, etc. Mais est-ce qu'il y a un risque avec le froid et les médicaments ?
Oui, il y a certains traitements qui peuvent majorer les effets du froid sur l'organisme et aggraver l'hypothermie. Alors, il y a deux familles de médicaments, on va dire. La première, c'est celle qui va traiter l'hypertension artérielle. Ça va empêcher la vasoconstriction, ce qui veut donc dire qu'on va perdre plus de chaleur et finalement avoir plus froid. C'est vrai aussi pour les vasodilatateurs, ce qui va dilater les artères, notamment les dérivés nitrés qu'on utilise dans l'angine de poitrine. Mmh. Ce qui veut donc dire qu'on a une deuxième famille, c'est ce qui va perturber le signal de régulation de la température au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus.
Et ça, c'est quoi,
les médicaments neurologiques comme les benzodiazépines, donc les anxiolytiques, certains antidépresseurs, les barbituriques, des neuroleptiques. Ils peuvent avoir les mêmes effets d'hypothermie où on va avoir plus froid avec ces traitements.
Alors ça, c'est un effet direct de ces médicaments par rapport au froid, mais je crois qu'il y a aussi des médicaments qui ont un effet indirect.
Oui, c'est notamment lorsque vous avez tous les médicaments qui vont entraîner une baisse de la vigilance. Tout ce qui va entraîner des sédations comme les somnifères, les anxiolytiques, eh ben, ça va altérer les capacités d'une personne à adopter finalement les bonnes mesures en cas de froid, car on va moins sentir ce froid, car on va être plus somnolent. Mais là, c'est un mécanisme plus indirect et c'est encore une fois les somnifères, les anxiolytiques.
Juste pour terminer, un petit mot sur l'alcool. On est d'accord, quand il fait froid, l'alcool, c'est une très mauvaise idée. C'est une mauvaise idée de tout le temps d'en consommer trop, de toute façon. Mais le froid, ce n'est pas une bonne idée.
Exactement, c'est une très mauvaise idée, car l'alcool ne réchauffe pas. Au contraire, ça fait baisser votre vigilance, ça entraîne des hypoglycémies. Et par la même occasion, ça entraîne de l'hypothermie. Et lorsque les gens sont dehors, ils ne ressentent pas le froid, ils pensent avoir chaud. Ça anesthésie aussi. Souvent, je vois des gens qui vont se faire des entorses de cheville en ayant un petit peu bu. Donc, ça anesthésie et ça aggrave un risque d'hypothermie.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Nathalie, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, surtout n'hésitez pas. Ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous dire de faire attention aux bactéries qui peuvent traîner sur nos oreillers. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. C'est la journée mondiale aujourd'hui de lutte contre ces maladies. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous êtes penché sur l'hygiène de notre literie, à savoir oreiller, drap et couverture. On oublie qu'on y passe quand même beaucoup de temps et qu'il faudrait peut-être en prendre aussi soin que de nos sous-vêtements. Que se passe-t-il du côté de nos draps alors ?
Alors dites-vous bien que vous passez un tiers de votre temps au lit. Et du coup, que les draps propres devraient être un peu votre priorité. Souvent, on les néglige. Pensez à la salive, la sueur, les pellicules ou autres petits liquides que vous pouvez laisser sur les draps.
Moi, je n'ai pas tout ça, je ne bave pas en dormant. Donc...
Idéalement, je ne vous juge pas, mais il faudrait les laver chaque semaine et au moins tous les 15 jours si on est un peu cracra. Et d'ailleurs, les Américains, eux, ne les lavent d'après une étude que tous les mois.
Ah ouais, non, moi quand même, je les lave beaucoup plus. Hein.
Vous perdez environ 500 millions de cellules cutanées par jour et beaucoup de ces cellules mortes s'accumulent sur les draps entre les lavages. Et ces cellules mortes, ce sont de la nourriture parfaite pour les acariens qui s'alimentent justement de ces petites peaux et qui peuvent par la suite vous donner des allergies, de l'asthme ou provoquer une crise d'eczéma.
Voilà, j'ai pas envie d'entrer dans mon lit ce soir du coup. Bon, et pour les oreillers, du coup, c'est pas mieux, il me
non,
semble.
Ben non, parce que vous avez ces cellules cutanées qui meurent, la sueur, la salive et les autres fluides. Et ça peut transformer votre lit et les oreillers en une véritable boîte de pétri. Mmh. On s'est amusé dans un laboratoire à tester les têtes d'oreillers non lavées pendant une semaine. Et elles abritaient 17 000 fois plus de colonies de bactéries que sur les échantillons prélevés sur un siège de toilette.
Oh là là, bon, je vais dormir sur mon canapé ce soir. Mes enfants, ils ont été malades la semaine dernière, ils ont eu la grippe, tous les deux. Est-ce que ça veut dire que ça a duré une semaine, grosso modo, j'ai pas lavé les draps pendant la semaine, est-ce que ça veut dire que les draps, faudrait les laver pour éviter la contagion ou la recontagion?
Bah oui, si vous, votre conjoint ou les enfants êtes malades, il faudrait laver les draps pour essayer de tuer les germes qui sont résistants, qui sont surtout persistants. La plupart des bactéries ou des virus peuvent survivre sur des surfaces molles pendant quelques minutes à quelques heures. La durée de survie varie en fonction du microbe. Par exemple, le virus de la grippe peut survivre jusqu'à 12 heures sur des tissus. Donc, on dit souvent le matin que la meilleure façon de démarrer la journée, c'est de faire son lit.
Bah oui, quand même.
Non, il serait peut-être plus sage de ne pas commencer par ça. Il faudrait mieux peut-être aérer les draps, car l'humidité qui s'accumule sur les draps et qui s'accumule nuit après nuit est un milieu parfait pour la prolifération de moisissures.
Bon, laissez ouvert, ne faites pas le lit, au moins ça s'aère toute la journée. Hein, c'est ça, c'est une bonne raison de ne plus faire son lit.
Laver les couettes, l'idéal, ce serait de le faire une à deux fois par mois, et même pour les housses. Le surmatelas, quatre fois par an, et puis passer l'aspirateur sur votre matelas, notamment si vous avez une jupe de lit et au moment de l'été, c'est le moment de faire un grand ménage.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils literie. Alors, je ne vous connaissais pas aussi sur ce secteur-là, mais c'était très intéressant. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Axel Kahn. Il est président de la Ligue contre le cancer.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Axel Kahn.
Bonjour Mélanie.
Ravie de vous recevoir sur ce plateau. Ça fait longtemps qu'on voulait vous inviter, mais ça y est, c'est l'occasion. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. D'abord, c'est peut-être une question bête, mais quand on voit les progrès de la médecine récents, on se demande, est-ce qu'un monde sans cancer, c'est possible un jour ?
Non, hélas, une vie sans cancer n'est pas possible. Et je dirais, en forçant un tout petit peu le trait, que la première cellule vivante qui est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années était déjà dotée des mécanismes qui sont les mécanismes du cancer. On a trouvé des cancers sur des momies, sur des os d'hommes plus anciens. Hippocrate, il y a 5000 ans, décrit le cancer. Et il y a des cancers tout au long de la préhistoire et de l'histoire.
Donc il y en aura toujours. Néanmoins, Jimmy, vous voulez poser une question ?
Oui, par contre, dans le monde dans un monde peut-être futur, est-ce qu'on pourrait espérer de traiter, de guérir tous les cancers ?
Voilà. Dans le monde dans lequel on s'engage, on est donc dans les années 2020, les chiffres, il faut les avoir vraiment à l'esprit. Il y a 750 000 naissances tous les ans et 400 000 cancers nouveaux détectés tous les ans.
Ça fait un peu peur ces chiffres-là. Hein.
Ce sont les chiffres. Alors, il faut avoir peur naturellement. C'est-à-dire qu'il faut que l'on s'apprête à s'engager quand on est jeune dans un monde qui ne sera pas débarrassé du cancer. Et donc, il ne faut pas baisser la garde. Et effectivement, parce qu'on ne baisse pas la garde, parce qu'on essaye d'éviter les cancers qu'on peut éviter, parce qu'on développe les moyens scientifiques pour lutter contre le cancer, lui, il nous porte des coups, mais nous, on lui en porte des plus redoutables encore. Et malgré le fait que les cancers persistent, la mortalité par cancer tend aujourd'hui à diminuer de manière importante pour certains cancers, et même pour des cancers extrêmement graves, tels que le cancer du poumon. Enfin, on fait des progrès et on peut voir une lueur à l'horizon. C'est extrêmement important. Ça, grâce à la recherche, grâce à la science, grâce à tout ce que vous voulez. La mobilisation.
Combien de cancers aujourd'hui on est capable de guérir ? On dit, en imaginant sur 100 cancers, la guérison aujourd'hui, c'est à peu près quoi ?
55% en moyenne. Et j'ai des objectifs, nous avons des objectifs, nous autres, les médecins, les chercheurs, la Ligue contre le cancer, qui est le principal financeur de la recherche contractuelle contre le cancer en France. À la fin de la décennie qui s'engage, là, donc en 2030, 2/3 des cancers guéris. À la fin de la décennie qui se terminera en 2040, 3/4 des cancers. Voilà. Et
c'est
on fera mieux encore après.
Professeur Kahn, nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes. Bien sûr, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on poursuit évidemment sur la prévention des cancers. Il y en a 40% d'entre eux qui sont évitables. On va vous détailler comment on peut justement les éviter. Ça passe évidemment en grande partie par l'hygiène de vie. Ce que vous mettez dans votre assiette, par exemple, est justement une alerte relayée aujourd'hui contre les nitrites dans la charcuterie. Ces conservateurs seraient responsables de nombreux cancers colorectaux. On vous dit tout juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Professeur Kahn, on parle aujourd'hui donc essentiellement de prévention du cancer. Il y a une bonne nouvelle quand même, 40% des cancers seraient évitables.
Effectivement, le cancer est dû à des mutations qui surviennent au niveau des cellules et qui confèrent un avantage de prolifération et d'invasion de ces cellules. Mais parfois, ces mutations ne sont pas aléatoires, elles sont provoquées par des pratiques de vie. Et on connaît les pratiques les plus cancérigènes. De loin, la plus cancérigène, c'est le tabac. 46 000 morts liées au tabac. Dans le monde entier, depuis que l'on sait que le tabac est cancérigène, 500 millions de morts. C'est plus énorme. Grand crime contre l'humanité que le crime des fabricants de cigarettes.
Celui-là, on l'a bien identifié. Hein,
voilà.
Ouais.
Deuxième cause, l'alcool. Une cause extrêmement importante avec des inquiétudes nouvelles. Troisième cause, globalement, l'obésité et la mauvaise alimentation. Mmh. Et dans ce bloc-là, environ 5 000 à 7 000 morts par cancer liés à cela, il y a des causes particulièrement évitable. Et c'est vrai qu'on a relancé une campagne avec nos partenaires de Foodwatch et de Yuka sur...
Ce matin, effectivement, on en a
voilà,
parlé sur Europe 1 aussi, dans la matinale.
Un traitement des charcuteries qui est le traitement par les nitrites. Ça n'est pas les nitrites ou les nitrates qui sont cancérigènes. Mais quand on traite les charcuteries, notamment les charcuteries cuites par les nitrites, il se forme un composé nitré extraordinairement stable et la charcuterie arrive dans le tube digestif avec ce composé nitré qui se décompose là dans le tube digestif en engendrant tout plein de produits qui sans doute sont responsables de ce pouvoir cancérigène. Vous ne savez pas, Mélanie, je vais vous dire quelque chose qui est même effarant. les charcuteries, vues par l'OMS, sont le seul aliment, je mets l'alcool à côté, c'est pas un aliment, les charcuteries sont le seul aliment qui est classé cancérigène 1 avéré. Et l'OMS recommande de ne pas manger du tout de charcuterie.
Moi,
j'aime les charcutiers. Et donc, je suis certain que s'ils arrêtent de traiter leurs produits par les nitrites, alors ils peuvent sauver leurs produits.
Et ces produits, vous dites, ils provoquent les substances qui sont dedans, ces conservateurs, les nitrites ou nitrates, ils provoquent quel type de cancer ?
Avant tout, les cancers colorectaux, également des cancers de l'œsophage et de l'estomac. Et d'après certaines données, mais c'est moins important, peut-être pourrait-il intervenir dans des cancers du pancréas.
Jimmy ?
On dit souvent que c'est la dose qui fait le poison. Est-ce que ce risque est majoré si on en mange beaucoup ? Au contraire, si en mangeant une petite quantité de charcuterie, on est quand même exposé à ce risque de cancer ?
L'OMS préconise de ne manger aucune charcuterie. Et l'OMS dit que manger 50 grammes de charcuterie par semaine augmente de 18% le risque de cancer colorectal.
C'est pas grand-chose, hein, ces deux tranches de jambon. Quoi,
voilà,
c'est, ça, hein,
c'est rien. À peine.
Même
50
pas,
grammes,
ouais.
C'est une demi-tranche de jambon, vous voulez dire.
Une demi-tranche de jambon. Chose,
et donc, c'est la raison pour laquelle, et je voudrais, je dis ça aux gens, parce qu'il faut que les gens se préservent et préservent leurs enfants. Il ne faut pas qu'il y ait des cantines qui servent des charcuteries nitritées. Mais je dis ça à tous mes amis qui sont charcutiers, un produit que j'aime, moi, personnellement. Honnêtement, vous ne pouvez pas continuer à traiter votre produit comme ça. Vous ne pouvez pas. Il faut sortir de cette vieille habitude de traiter vos produits avec des nitrites.
Autre levier de prévention des cancers, il faut limiter sa consommation d'alcool. Vous en avez déjà parlé un petit peu. Je crois d'ailleurs que vous avez défendu à la Ligue contre le cancer, et vous en personne, le mois de janvier sans alcool qui vient de se terminer. L'alcool, c'est vraiment un énorme pourvoyeur de cancer, ou pas, on n'en a pas effectivement forcément conscience.
Derrière les 46 000 morts par cancer liés au tabac, le deuxième assassin par cancer, c'est l'alcool. 16 000 au moins, peut-être 17 000, avec une inquiétude. C'est que l'alcoolisme, la consommation d'alcool, a cessé de décliner il y a 13 ans, parce que la diminution de l'alcoolisme socio-économique a été remplacée par l'alcoolisme festif des jeunes.
Le binge drinking,
voilà, notamment. Mais justement, vous avez raison de parler de la biture express, de l'ivresse express, le binge drinking, qui est une pratique, évidemment, des pratiques festives. Eh bien, il y a des données américaines qui ont été publiées il y a un à deux mois de cela, qui indiquent que cette pratique des jeunes serait particulièrement cancérigène. C'est une énorme inquiétude pour notre jeunesse. Et la Ligue se mobilise, elle va lancer des états généraux de la jeunesse à la fin de 2021 sur cet aspect. Les jeunes s'engagent dans une société qu'ils doivent conquérir, mais une société où le cancer règnera aussi. Ils ne doivent pas être totalement inhibés par cette perspective, mais ils doivent savoir l'affronter pour vaincre effectivement cette menace.
Professeur Axel Kahn, on va poursuivre cet entretien passionnant dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à parler de prévention des cancers, mais on va aussi vous donner quelques bonnes nouvelles, notamment du côté des cancers pédiatriques. Aujourd'hui, 4 enfants sur 5 guérissent, mais demain, on l'espère, ce sera beaucoup plus. La recherche est très active sur le sujet. On va parler par exemple de médicaments intelligents testés sur des formes graves de cancer du cerveau. On va vous détailler tout ça. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Alors professeur Kahn, il y a quelques minutes, on a parlé d'alimentation et de consommation d'alcool comme levier pour limiter cette consommation d'alcool, pour limiter le risque de cancer. Alors on ne peut pas ne pas dire un mot quand même du tabac, on a parlé des décès il y a quelques minutes, mais aujourd'hui on a l'impression que la situation est un peu en train de changer. Depuis 2-3 ans, le nombre de fumeurs en France diminue. Je crois qu'il y aurait au moins 1 million de fumeurs en moins. Ça va dans le bon sens quand même.
Oui, absolument. Dans le domaine du tabac, l'État a pris vraiment la mesure de ses responsabilités. Et l'augmentation considérable du prix du paquet, le paquet à 10 euros, banalisé, c'est un élément qui va frapper le fumeur au portefeuille et qui va l'amener à réfléchir. Et puis c'est un poids économique tout à fait considérable. Malheureusement, notre satisfaction est contrastée parce qu'il y a une exception. Il y a des personnes chez lesquelles le cancer du poumon qui est lié à la consommation de cigarettes augmente, sont les femmes, et c'est pas rien.
Eh oui.
Les femmes sont victimes de cancer du poumon 5,3% de plus chaque année. C'est tellement épouvantable que dès cette année ou l'an prochain, le cancer du poumon tuera plus de femmes que le cancer du sein. Et dans 10 ans, si ça continue, le cancer du poumon chez les femmes sera plus fréquent, croisera la courbe des cancers du poumon chez les hommes.
C'est
que
les femmes... Donc c'est catastrophique quand même comme situation.
Voilà, les femmes sont un peu plus rétives à s'arrêter de fumer que les hommes pour des raisons psychologiques qu'il faut étudier, d'ailleurs, qui sont extrêmement importantes à connaître parce qu'on ne peut pas s'y résoudre.
Jimmy ?
L'objectif, c'est donc d'avoir une génération de personnes qui ne vont jamais fumer de leur vie. Est-ce que cette génération de non-fumeurs, elle est déjà née en France ?
Alors, hélas, les chiffres de ce point de vue-là ne sont pas totalement rassurants. J'ai lu récemment une enquête chez les adolescents et ils étaient 56% à avoir, adolescents, déjà fumé ou vapoté.
Ah oui.
Et d'ailleurs, chez les adolescents, le fait de vapoter ne prévient pas le fait de fumer. Certains d'entre eux font les deux. Le vapotage est intéressant pour qu'un fumeur sorte absolument de l'addiction au tabac, mais évidemment, il y a tout de même des incertitudes.
Bon, on n'a pas envie que les jeunes se mettent à commencer ça non plus. Hein,
un jeune qui n'a jamais fumé, il ne doit pas non plus commencer à vapoter.
C'est évident, voilà. C'est évident. On parle des enfants, justement, on va peut-être parler un mot des cancers pédiatriques. Je sais que c'est un de vos sujets principaux à la Ligue.
On investit beaucoup.
Oui.
Les cancers pédiatriques représentent 0,7 à 0,9% des cancers et on y consacre 10% de notre budget de recherche.
Oui, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, donc, les chiffres sont là. On en guérit quand même beaucoup. C'est-à-dire 4 enfants sur 5 ou 4 adolescents sur 5 guéris de son cancer. On a vraiment les moyens d'arriver à faire mieux encore ?
On a les moyens d'arriver à faire mieux dans deux domaines. Tout d'abord, il y a encore 17%, 20% des cancers qui restent désespérants. Et il faut absolument arriver à retrouver l'espoir, à les guérir. Et il y a un autre problème, c'est que les médicaments classiques, la chimiothérapie classique, qui permet d'obtenir aujourd'hui la guérison de 80% des premiers cancers des enfants, ce sont des médicaments qui eux-mêmes sont cancérigènes.
Ah oui,
et
d'accord.
Donc ces enfants, ils sont jeunes évidemment, sont des enfants, ils sont prédestinés pour une partie d'entre eux à faire un deuxième, des fois un troisième cancer. Et quand on regarde le destin à long terme de ces enfants, il n'est pas formidable. Donc la Ligue a lancé un mot d'ordre, lorsque l'on guérit un premier cancer chez un enfant, on ne s'arrête pas là. On va essayer de continuer à le guérir, mais avec des médicaments moins toxiques.
Pour éviter évidemment des
pour
récidives.
Pour éviter de gréver l'avenir. Ça c'est un de nos combats actuels.
Très important. Jimmy ?
Du coup, vous avez dit qu'on peut guérir 80% des cancers chez l'enfant, ce qui veut donc dire qu'il y en a 20% qui sont récalcitrants au traitement et que la recherche, justement, s'intéresse à des médicaments anticancéreux dits intelligents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, je vous ai dit que ces chimiothérapies de première génération que l'on utilise, à vrai dire, pour mettre en rémission ces cancers de l'enfant, ils abîment les gènes. On dit qu'ils sont génotoxiques. Ils tuent les cellules qui se divisent rapidement. Et donc, comme ils abîment les gènes, ils sont cancérigènes. Le cancer, c'est des maladies génétiques cellulaires. Donc, c'est malheureusement normal. Si maintenant, ce même médicament, même sans changer de médicament, vous évitez qu'il aille partout et vous le mettez avec un transporteur intelligent qui va porter le médicament directement et uniquement dans la cellule tumorale, vous aurez l'action antitumorale sans avoir l'action toxique. Et c'est effectivement notamment des recherches que finance la Ligue contre le cancer.
C'est pas un peu le même principe que les thérapies ciblées, parce qu'on imagine que la thérapie ciblée, elle va cibler la tumeur. C'est ça qu'il faut développer plus spécifiquement pour l'enfant, c'est ça ?
Alors la thérapie ciblée, c'est une autre stratégie qui est meilleure d'une certaine manière. C'est que le médicament lui-même, il n'est pas dirigé contre les cellules qui se divisent rapidement. Il n'y a pas que les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement. Les cellules de la moelle osseuse se divisent rapidement, les cellules de l'intestin rapidement, les cellules de la peau rapidement, etc. etc. Ce sont des médicaments qui sont directement dirigés contre les mécanismes qui expliquent que la cellule s'est cancérisée. Et donc, qui normalement épargne en principe les autres cellules. Donc, en gros, quand on regarde dans les chimiothérapies, les grands progrès, premier grand progrès, la chimiothérapie, 1947, deuxième grand progrès, début des années 2000, les thérapies ciblées. Et on essaye de faire en sorte que les chimiothérapies de première génération qui permettent d'obtenir des résultats chez les enfants soient remplacées par des thérapie ciblée. Et troisième grand progrès, c'est en dehors de la chimiothérapie, on va peut-être en parler, c'est l'immunothérapie.
On y vient juste après. Je reviens juste un tout petit peu sur ces médicaments intelligents. Je crois que donc vous financez des travaux dans ce sens, notamment pour quel type de cancer chez l'enfant qui serait vraiment récalcitrant, qui sont aujourd'hui catastrophiques en termes de pronostic ?
Ça n'est pas tellement pour les cancers récalcitrants, c'est pour tous les cancers que l'on met en rémission, mais au prix de ce risque pour l'avenir. Et ce que l'on veut, c'est diminuer le risque pour l'avenir en focalisant l'action du médicament vers la cellule tumorale évitant que ce médicament aille vers les cellules saines qui pourraient être cancérisées pour l'avenir.
Des cancers du cerveau, je crois, chez l'enfant, qui sont justement aujourd'hui typiquement intéressants pour ce type de thérapie.
Alors, dans les cancers du cerveau, il y en a plusieurs types. Le neuroblastome de l'enfant, on le met en rémission assez souvent, et donc c'est tout à fait intéressant. Mais même des tumeurs du rein, que l'on met très très souvent en rémission, il n'empêche que quand on utilise avec la radiothérapie, de la chimiothérapie, pour une tumeur de Wilms, un cancer du rein de l'enfant, il y a des dégâts, et il y a une augmentation de la fréquence et du risque d'un cancer ultérieur. Donc ces médicaments intelligents qui porteraient les drogues tuant les cellules, uniquement dans les cellules rénales, ça serait évidemment un progrès considérable.
Jimmy ?
Vous avez parlé du coup tout à l'heure d'immunothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, en des mots que tout le monde comprenne, ce que c'est ?
Oui, très simplement. Les cellules cancéreuses sont étranges et elles sont étrangères. Elles devraient être rejetées par le système immunitaire, dont le travail est de rejeter ce qui est étranger. Les greffes non compatibles, les virus, les microbes. Et la raison pour laquelle le système immunitaire ne rejette pas les tumeurs, c'est que les tumeurs sont, entre guillemets, intelligentes. Par des mécanismes de sélection naturelle, elles apprennent à inactiver le système immunitaire qui s'est dressé contre elles. Donc vous avez les cellules tumorales, réponse immunitaire, mais les cellules tumorales anesthésient les cellules immunitaires. Eh bien, on a trouvé, il y a peu de temps, le moyen de réveiller les cellules immunitaires.
Du patient lui-même. Hein,
c'est du patient lui-même.
Il se guérit en quelque sorte tout seul.
Et donc,
seul, alors.
Ces cellules immunitaires font leur boulot. Elles étaient endormies par le génie malfaisant de la tumeur. Maintenant, elles font leur boulot. Il y a une autre stratégie. Pour se défendre, la cellule tumorale peut masquer son étrangeté. Donc, elle a un épitope, elle a quelque chose qui décore sa membrane et qui est perçu par une cellule immunitaire. Mais pour éviter d'être détruite, elle cache son étrangeté, cet antigène, comme l'on dit. Eh bien, on sait faire du génie génétique sur les propres cellules immunitaires du malade, de telle sorte que ça ne marche plus et qu'ils reconnaissent obligatoirement une molécule typique, spécifique de la cellule tumorale et la détruisent. Donc, c'est deux grandes stratégies aujourd'hui des immunothérapies.
Mais pour l'instant, l'immunothérapie ne marche pas sur tous les cancers et chez tout le monde. L'objectif peut-être de la recherche, c'est justement de pouvoir faire en sorte que ça marche mieux et partout.
Aujourd'hui, l'immunothérapie marche entre 20 et 50% des cas. On commence à comprendre pour quelles raisons, quand elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas. Mais ce qui est extrêmement important, c'est quand on regarde les pistes théoriques et même les travaux de recherche qui sont menés, il existe des dizaines et des dizaines de programmes avec la poursuite de dizaines et de dizaines d'attaques de cibles nouvelles, de mise en œuvre de stratégies innovantes, différentes. Et donc, incontestablement aujourd'hui, c'est dans le développement des immunothérapies que résident les promesses principales de poursuite du progrès thérapeutique du cancer. Et on progressera, Mélanie, on progressera.
C'est une très bonne nouvelle, on est ravis que vous veniez nous les annoncer sur ce plateau. Mais l'immunothérapie, ça sera encore l'avenir, ça a été la révolution et ça sera encore l'avenir de davantage de patients guéris. Est-ce que ça ne sera pas aussi de combiner peut-être des traitements plus anciens à cette niveau immunothérapie qui est nouvelle ?
Ça, c'est une excellente question, Mélanie.
Ah, bah merci pour terminer l'interview, c'est super.
Je vais vous expliquer. Quand vous mettez une chimiothérapie classique contre une cellule tumorale, cette chimiothérapie classique fait du mal tout de même à la cellule tumorale. Et cette cellule tumorale qui a mal devient encore plus étrangère. Et comme elle est encore plus étrangère, elle augmente la réponse immunitaire. Et la combinaison d'une chimiothérapie qui augmente l'étrangeté de la cellule tumorale, parce qu'elle est toute mal foutue là, et elle devient tout à fait reconnaissable, cela fait une stimulation du système immunitaire, et tout ça, ça marche mieux que les deux traitements isolément.
Donc ça peut être la clé effectivement de progrès à venir.
C'est l'une des stratégies.
Merci beaucoup professeur Axel Kahn d'être venu sur notre plateau nous parler de tous ces espoirs en cancérologie. Et justement, pour que tous ces progrès aboutissent, la recherche a besoin de toujours plus d'argent. Donc vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à faire un don. Ça se passe sur ligue-cancer.net. Merci beaucoup professeur Axel Kahn.
Au revoir Mélanie, au revoir Jimmy.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. On va parler de pneumothorax. C'est lorsque de l'air se retrouve dans la cavité pleurale, c'est-à-dire entre les poumons et la cage thoracique. On va vous expliquer comment ça se manifeste et surtout comment ça soigne. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du pneumothorax. Savez-vous ce qu'il se passe au niveau de vos poumons quand cet incident survient? Quels sont les symptômes qui peuvent faire penser que vous en souffrez? Savez-vous comment ça se traite? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Quelque chose qui est lié au poumon et au thorax.
Il y a un des poumons qui se décolle de la paroi et du coup il y a beaucoup moins d'air qui peut rentrer dedans et c'est apparemment très très douloureux.
Moi mon frère il en a fait un, donc c'est quand on a un poumon qui se rétrécit et du coup on a de l'air qui rentre entre la plèvre et le poumon.
Une douleur assez forte à ce niveau-là et qui te comprime et qui t'empêche de respirer.
Capacité à respirer qui diminue par deux, donc forcément c'est beaucoup de tout, une difficulté à respirer, faut aller tout de suite aux urgences, enfin, je pense qu'on le sait tout de suite quand ça nous arrive. Quoi.
T'appelles les pompiers ou le SAMU, faut faire quelque chose.
Je sais que c'est particulièrement les hommes grands et fins qui sont atteints.
Je pense que si ça touche les poumons, je pense que ça peut être des personnes qui fument beaucoup.
Je pense que c'est le genre de choses qui peut un peu arriver à tout le monde, enfin, parce que c'est un décollement de la paroi, peut-être des personnes qui manquent de certaines protéines dans le corps au niveau des cellules qui justement permettent de l'adhérence ou des choses comme ça.
Oula, je pense que la dernière personne qui parlait s'y connaissait un
petit
peu quand
même. Mélanie,
on s'est dit que là, il y avait du niveau.
Ouais,
Jimmy,
ils en connaissent plus que moi, c'est un peu inquiétant.
C'est embêtant.
Non mais bon, on va pas dire la vérité.
Bon, allez non. Jimmy, on va reprendre du début. Donc expliquez-nous d'abord ce que c'est donc un pneumothorax en soi, physiologiquement.
Alors certains auditeurs l'ont dit, donc c'est pas de l'air dans le poumon, parce que souvent on pense que c'est ça. Le poumon est entouré d'une plèvre, c'est un tissu, un feuillet, qui recouvre sa paroi et qui se replie sur lui-même.
C'est comme une enveloppe,
comme une enveloppe,
du poumon,
exactement,
ouais.
Et qui crée un espace virtuel entre les deux qui protège le poumon. Lorsque de l'air pénètre dans cette plèvre, où la pression normalement est négative, la pression change et tout d'un coup, le poumon devient ratatiné, il ne peut plus être en expansion, ce qui entraîne le pneumothorax. Ce n'est pas de l'air dans les poumons, mais de l'air dans la cavité pleurale qui va faire que tout d'un coup, il va être compressé.
C'est bien, avec les bruitages, on comprend bien. En plus,
oui, tout ça, il est aspiré.
c'est bien.
Souvent un poumon qui est touché.
Parfois,
et rarement
les deux
en même temps, sauf cas exceptionnel, on en parlera juste après.
D'accord. Alors, quelles sont les causes? Pourquoi on peut voir tout d'un coup cet accident survenir?
Alors, il y a plusieurs causes. Une des auditrices l'avait dit aussi, on a ce qu'on appelle des pneumothorax dits spontanés. C'est les sujets qui sont grands, longilignes, donc pas très gros.
C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui l'a dit dans le micro-trottoir. Ce seraient les grands et fins.
Fumeurs, dans 3 cas sur 4, ils sont fumeurs. Et
encore
surtout,
une bonne raison de ne pas fumer, non ?
S'ils fument du cannabis, ce risque est décuplé. Donc on n'a pas de cause
c'est ce profil-là. Voilà.
On a des pneumothorax secondaires, c'est-à-dire secondaires à des pathologies pulmonaires, comme la bronchite chronique, la mucoviscidose. Parfois, il y a ce qu'on appelle des petites bulles d'emphysème, et ces bulles peuvent être explosées et donner ce pneumothorax. On a les pneumothorax dits traumatiques. Lorsque vous avez un accident de la voie publique ou si vous recevez malheureusement un coup de couteau, et bien évidemment qu'à ce moment-là, la plèvre est percée. Même chose lorsque vous avez une fracture de côte. Plusieurs fractures de côte, lorsque vous en avez 3 de suite, peuvent toucher le poumon et vous donner aussi ce pneumothorax. Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on parle de pneumothorax, ils sont spontanés, sans cause retrouvée, qui touchent plutôt des hommes qui ont entre 20 et 40 ans, donc plutôt des hommes assez jeunes.
D'accord. Et il n'y a pas des maladies aussi qui peuvent entraîner ça?
Oui, on en a parlé un petit peu. Donc la bronchite chronique, c'est la première cause de pneumothorax lorsqu'on a des pathologies.
La BPCO, dont on a déjà parlé. Ouais.
Certains cancers, malheureusement, la mucoviscidose. Certaines tuberculoses qui n'ont pas été traitées, qu'on a laissées un peu de côté.
D'accord. Et alors rapidement, vous disiez que ça peut survenir aussi n'importe quand sans raison. Dites-nous quand même quels sont les symptômes.
Alors c'est une douleur thoracique
que
vous avez qui apparaît de façon brutale et qui se majore lorsque vous inspirez. Lorsque vous respirez, le diaphragme bouge et la plèvre bouge.
À l'inspiration, ça fait plus mal. D'accord.
Vous toussez, ça fait mal. Et puis, il peut y avoir une petite toux irritative. S'ensuit ensuite, cette douleur va s'estomper et avoir un petit fond douloureux persistant.
D'accord.
Vous n'aurez pas mal de façon extraordinaire. Et parfois, vous avez une gêne respiratoire, vous êtes essoufflé au moindre effort, car vous avez simplement un poumon qui marche sur deux, donc des efforts plus limités.
Et on n'a pas de fièvre, hein. C'est pas quelque chose qui a un rapport avec une infection.
Absolument
hein,
pas,
c'est
de la fièvre, au contraire, ça oriente vers une infection pulmonaire,
autre chose.
Une bronchite ou autre, ou une pleurésie. Le fait d'avoir du pus dans la plèvre vous donne aussi les mêmes symptomatologies.
D'accord, alors pour terminer quand même, comment ça soigne rapidement, même si on n'aura peut-être pas le temps de parler de tous les traitements.
Le pneumothorax, il faut le drainer lorsqu'il fait plus de 2 cm à la radio. On met un drain ou on met une petite aiguille pour évacuer l'air. Il peut être récidivant dans 30% des cas lorsqu'il est spontané et 50% lorsqu'il est lié à une pathologie pulmonaire. Mais dans l'immense majorité des cas, les médecins font très attention et parfois on peut talquer la plèvre pour éviter que le pneumothorax récidive lorsque celui-ci revient 2, 3, 4 fois. Mais là, c'est un calvaire, mais c'est une prise en charge spécialisée.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. On a tout compris grâce à vous, surtout les bruitages. Là. On a bien compris. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. On vous dira tout sur la sapiosexualité.
T'as vu ça ? Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio à l'instant, c'est Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Carla. Je vous la lis. Depuis quelque temps, plusieurs de mes amis me disent que je suis sapiosexuelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça tombe bien parce que moi non plus, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, Catherine. C'est quoi alors, sapiosexuel ?
Alors, sapio, ça vient du latin. Sapio, ça veut dire intelligence, relative à l'intelligence. Alors, donc, qu'est-ce que le sapiosexuel ou la sapiosexualité ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, initialement, ce qui nous meut les uns vers les autres, c'est du coup l'idée de la reproduction, donc de nos corps. Donc, c'est de la musculature, c'est les mains, c'est la puissance, le côté, le bassin giron, etc., pour renvoyer une idée de possibilité du meilleur partenaire à but de proliférer nos sexes, faire que nos gènes prolifèrent. Là, pour le sapiosexuel, ça raconte toute l'évolution d'une société qui devient des animaux sociaux et qui, du coup, vont avoir une attirance les uns vis-à-vis des autres sur d'autres points, à savoir comment ils vont pouvoir s'inscrire dans la société, notamment avec un autre pouvoir qui n'est pas nécessairement celui de la reproduction, mais celui, le pouvoir d'être en lien, d'être dans une position forte dans la société. Donc, des gens intelligents, des gens cultivés, des gens plus vieux, donc qui pourront servir de pygmalion, etc., etc. Donc, moins porté sur le physique de son partenaire.
Alors, je ne sais pas s'il est sapiosexuel, mais Jimmy Mohamed, vous avez une question ?
Non, mais c'est peut-être comme ça que j'ai réussi à séduire ma femme, hein, parce que je n'étais pas très, très beau à l'époque. Je ne dis pas que je suis devenu très beau, mais bon, elle avait une tête un peu bizarre il y a quelques années. Mais voilà, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on délaisse le côté physique et que celui-ci est secondaire, voire inexistant ?
Ça ne veut pas dire qu'on le délaisse, mais il n'a pas été le vecteur principal. Après, certains vont le délaisser complètement pour exclusivement quelque chose d'extrêmement intelligent, le plaisir d'échange épistolaire, le plaisir de... et qui va être source d'excitation primordiale. Mais de toute façon, la sexualité reste corporelle. Mais heureusement qu'il y a des gens qui vont délaisser un peu le corps parce que ça permet à chacun aussi de pouvoir proposer autre chose qui peut être son point fort plus que, effectivement, des traits absolument parfaits.
Mais qu'est-ce qui donne alors le désir sexuel chez les sapiosexuels ? C'est l'intelligence, parce que du coup, ça marche pas le côté du tout physique chez ces gens-là.
Non, le tout physique ne marche pas.
Ça donne pas de désir à ces gens-là.
Non, c'est-à-dire qu'une personne peut être magnifique, elle peut reconnaître que cette personne
est
magnifique.
Mais l'intelligence les excite. Alors, il y a une excitation sexuelle quand même chez ces gens-là.
Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment le plaisir d'imaginer qui est cette personne, que pense cette personne, comment cette personne nous considère l'un l'autre, qu'on se considère dans la société pour le projet de cet emboîtement qui ne sera fait des corps, bien sûr, mais qui sera un emboîtement social.
Parce qu'il y a quand même une sexualité au bout du...
Bien sûr.
Ça amène quand même à un rapport sexuel.
Absolument. Je pense à une jeune femme qui me vantait tous les mérites de son homme, merveilleux, absolument extraordinaire, etc. Une très belle femme d'ailleurs. Selon les codes, encore une fois, très belle femme, ça ne veut pas dire grand-chose, mais selon les codes de notre société, de mannequinat, etc. Et en fait, cet homme était, quand je les reçois, pas du tout en adéquation. J'attendais le mannequin, j'avais Barbie, j'attendais Ken, et pas du tout, c'était tellement autre
chose.
Et
l'homme de Cro-Magnon.
C'était un homme qui était brillant, qui réfléchissait bien, qui parlait bien.
Et qui physiquement n'était pas forcément exceptionnel.
Qui n'était pas du tout exceptionnel physiquement, mais qui avait un charme fou, ne serait-ce que dans son verbe, dans son choix de vocabulaire, dans ses références. Et là, elle était complètement énamourée, d'ailleurs.
Et donc, cette patiente, elle était sapiosexuelle, alors sûrement.
Absolument, absolument.
Jimmy ?
Et c'est quelque chose qui touche un peu plus les femmes que les hommes. J'ai du mal à croire que les hommes puissent être un peu plus intéressés par la honnêteté, par l'intelligence, et que les femmes, non ?
On le trouve un peu plus, effectivement, malheureusement, chez les femmes.
Vous êtes lucide, c'est ça qui est bien, Jimmy, avec vous, j'aime bien, moi.
Ce qui permet d'ailleurs de dire que les femmes ne vont pas vers, par exemple, vers des hommes plus âgés ou plus riches pour des questions uniquement vénales, mais pour des questions de stimulation intellectuelle. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui irait vers un homme plus âgé et très installé professionnellement et ayant réussi professionnellement, ce qu'elle aime, c'est l'idée qu'elle est à côté de lui, qu'il est intelligent et qu'elle est donc considérée comme déjà aboutie de ce point de vue-là. On n'y voit pas que des choses de profit matériel.
Mais c'est plus difficile pour ces personnes sapiosexuelles d'avoir des relations sexuelles. Du coup, j'imagine les critères sont plus compliqués, quoi.
Ah, pas du tout, parce que les
remarquez, des gens brillants, il y en a partout. Mais...
Voilà, les gens brillants, il y en a partout. Comme des gens canons, il y en a aussi, mais pas toujours. Il ne suffit pas d'avoir, justement, le corps parfait n'existe pas, l'intelligence parfaite non plus, mais il y a matière chez les uns et les autres à trouver, justement, le plaisir et la richesse, l'écho de cette intelligence et ce qui fait le délice de certaines. Et de certains aussi, parce que les hommes aiment aussi l'intelligence féminine, je veux le croire en tout cas.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, nous parlerons du maquillage permanent, une technique utilisée pour cacher un défaut physique comme une cicatrice ou une calvitie, mais aussi capable de recréer artificiellement des aréoles mammaires pour les femmes victimes d'un cancer du sein par exemple. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous. L'équipée sauvage arrive pour 2 heures de rire et de découverte avec aujourd'hui la chanteuse Imani et une autre star. 2 stars pour le prix d'une aujourd'hui puisque Patrick Cohen, la légende du journalisme, nous rejoint dans l'équipée sauvage. Il a accepté d'être en compétition. C'est bien la première fois.
Super programme, on sera à l'écoute, promis Mathieu. Je vous souhaite une excellente émission et vous, restez sur Europe 1.